Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Faut-il lever le secret de la confession ? Nous sommes avec Pierre qui a 20 ans et qui est catholique, c'est important de le préciser. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Quel est votre sentiment sur le débat que nous avons commencé ?
Il est compliqué, mais je pense que non.
Non. Faut pas lever le secret de la confession ?
Non, non, non.
Bah écoutez, on va en discuter ensemble. Amandine, le rappel des titres.
Et elle a une Bernard Tapie de retour au Vélodrome. La cérémonie aura lieu cet après-midi avec cette finale donc de 93 qui sera rediffusée sur les écrans géants. Arrivée ensuite du cercueil de l'ancien patron de l'OM, le boss comme on l'appelle, qui sera donc installé au milieu du terrain sur la pelouse. Image éminemment symbolique bien sûr. Début de cette cérémonie dès 17h. On suivra bien sûr tout ça dans RTL Soir tout à l'heure autour de Julien Cellier. Autre hommage, c'est celui qui sera rendu à Samuel Paty. Ce sera la semaine prochaine, le 15 octobre prochain, dans tous les établissements scolaires. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Éducation nationale. La date n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est la veille de l'assassinat de Samuel Paty, ce prof d'histoire géo, tué par un terroriste islamiste à Conflans-Sainte-Honorine il y a bientôt un an. Un moment d'échange et de débat aura lieu dans toutes les classes, donc à partir de ce 15 octobre prochain, pardon, avant une cérémonie officielle qui, elle, aura lieu le lendemain, le 16, un an après ce drame. Notre météo avec vous, Peggy Walsh. Et c'est pas si mal, on a eu bien bien froid ce matin. Oui. Mais vous m'avez dit d'ailleurs que c'était des températures de saison. Bah, en fait.
C'est frais le matin, mais l'après-midi c'est de saison. Donc c'est vrai qu'il faut se couvrir, bah, on est en automne. Et cet après-midi, ça va remonter avec, c'est vrai, des températures un petit peu fraîches encore sur le nord-est et le centre-est. On a que 15 degrés prévus à Besançon, 16 à Metz et Lyon, mais 18 degrés à Paris. Là on est sur des températures de saison comme à Lille et à Caen, 20 à Brest et La Rochelle, 20 également à Toulouse, Biarritz, Nîmes, 23 à Perpignan et à Toulon. Côté ciel, vous l'avez dit, globalement c'est une belle journée. Les nuages qui sont dans l'est depuis ce matin se morcellent au fil des heures et on va retrouver de belles éclaircies cet après-midi. Ils seront peut-être un petit peu plus nombreux vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais ce sera plus lumineux. Et puis il y a toujours cette perturbation peu active sur le nord-ouest. Ça reste chargé donc entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais avec 2-3 gouttes possibles, pas grand-chose partout ailleurs. Du beau temps, toujours beaucoup de vent près de la Méditerranée et en Corse également, où le ciel finalement est plus nuageux avec quelques averses possibles.
Et demain ?
Encore une belle journée, oui. Alors, il y aura pas mal de nébulosité, de grisaille, de brouillard le matin. Tout ça va se dissiper. Il fera beau l'après-midi. Un temps plus mitigé toujours en Corse avec quelques averses et des nuages. Et le tout sous des températures un peu fraîches le matin, comme aujourd'hui, souvent sous les 10 degrés. Et deux saisons l'après-midi, de 17 à 21 au nord et de 18 à 25 au sud.
Merci beaucoup, Peggy.
Merci, Amandine. On va donc continuer ce débat ensemble sur faut-il lever le secret de la confession ?
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Marie Guerrier est restée avec nous. Le père Cédric Burguin, prêtre au diocèse de Metz, est également resté avec nous et il est sur une position assez ferme. Il rappelle que la jurisprudence française protège le secret de la confession et permet au prêtre de ne pas donner ce qui s'est dit dans cet échange-là. Et nous sommes donc avec Pierre, qui est étudiant en droit. Bonjour, rebonjour Pierre.
Bonjour.
Vous avez 20 ans. Pourquoi pensez-vous, le cas que je définissais, que j'expliquais, est très intéressant d'ailleurs. Quelqu'un en confession, c'est manifestement très rare, mais admet qu'il a violé un jeune mineur, et le prêtre peut ne pas donner, ne pas dire ce qui s'est échangé entre deux.
Effectivement, c'est le principe même de la confession par ailleurs. Et c'est là où on voit finalement l'importance de ce secret. Parce que j'imagine, monsieur Pro, que vous vous êtes déjà confessé, n'est-ce pas ? Et que, de fait, vous devez savoir que lorsque on confie un tel secret à quelqu'un, surtout sur des faits aussi finalement... qui touchent votre personnalité, votre vie privée, et qui sont souvent d'ailleurs assez infamants, eh bien, lorsque vous touchez deux mots de cela à un prêtre, vous attendez à ce que ce soit secret. Vous n'avez pas envie que cela se sache. Bien.
Et cela... Non, mais moi, je pense aux victimes, si vous me permettez.
Bien sûr, mais ça, la première
mais
chose...
Mais Marie Guerrier va également pouvoir échanger avec vous.
Bien sûr, mais ça, c'est la garantie, si vous voulez, du fait que le coupable vient se confesser. Si vous dites, s'il y a une exception au secret de la confession, bon déjà, théologiquement, c'est un gros problème, mais passons, sur le fait même d'abolir, donc, au moins pour une exception, ce secret, vous allez avoir les personnes concernées qui ne vont plus aller à la confession. Ça, c'est entendu. Vous voyez ?
Non, mais c'est un argument que je peux entendre. L'argument qui est, me semble-t-il, décisif, c'est la victime. C'est-à-dire que la personne qui a été violée, abusée sexuellement, qui est un mineur, ou le jeune mineur qui vient rapporter en confession les violences qu'il subit, je veux bien que le prêtre n'intervienne pas, mais je pense qu'il n'est pas dans son rôle. Marie Garrier.
C'est-à-dire que si quelqu'un vient en confession raconter ce qu'il a vécu, les drames qu'il a vécu... Peut-être que la conversation pourrait se poursuivre hors de la confession. Et dans ce cas, évidemment, là, ça ne tombe plus sous le sceau du secret. Ça, c'est une distinction que fait l'Église. Et notamment dans les cas où des évêques ont été condamnés pour non-dénonciation, notamment à Orléans. Ce n'étaient pas des choses qu'ils avaient entendues sous le sceau de la confession. C'est des choses dont ils étaient informés par ailleurs. Donc, dans des conversations, dans des courriers, même dans des confidences. Et ça, en revanche, ça n'est pas sous le sceau du secret. Donc à ce moment-là, oui, si pendant la confession, des propos sont tenus de cette sorte, il faut réussir pour le prêtre à faire poursuivre la conversation en dehors du sacrement de la confession. C'est la position pour l'instant de l'Église.
Et M. Burguin va pouvoir nous la préciser une nouvelle fois, cette position, juste après la pause. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Gérald Darmanin va demander à M. Boulin-Beaufort de venir s'expliquer sur les termes qu'il a employés, Marie Guerrier.
Ah oui, c'est une information qui tombe à l'instant. Le secret de la confession, donc Monseigneur de Moulin-Beaufort qui a dit que le secret était au-dessus des lois de la République, et donc Gérald Darmanin, qui est aussi le ministre des cultes, ministre de l'Intérieur et en charge des cultes, va donc convoquer le président de la Conférence des évêques de France en début de semaine prochaine pour s'expliquer sur cette question.
Et nous sommes avec Cédric Burguin qui est prêtre du diocèse de Metz. Vous voyez, Monsieur Moulin, Monsieur Burguin, qu'il y a un souci magnifique. Manifestement, puisque M. Darmanin a demandé à Mgr de Moulin-Beaufort de venir s'expliquer.
Apparemment, il lui demande de venir s'expliquer sur l'expression « au-dessus des lois de la République ». Et moi, je vous ai expliqué tout à l'heure que le secret de la confession, il était à l'intérieur du cadre des lois de la République. Et la précision que je voulais apporter suite à votre débat et l'auditeur que nous avons entendu, c'est une précision importante parce que vous avez dit, Pascal Praud, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a eu 30 ans de silence dans l'Église. Mais souvent, on imagine que le secret de confession a été utilisé par l'autorité ecclésiale pour protéger des délinquants. Or, je vous rappellerai un point, c'est qu'il y a une interdiction stricte pour un évêque, pour une autorité ecclésiastique de confesser ses subordonnés. Et donc, en aucun cas, sauf grave erreur de la part de l'évêque, mais en aucun cas, un évêque ne peut opposer le secret de confession dans la relation qu'il a avec un de ses prêtres qui serait délinquant, parce que normalement, l'évêque ne peut pas le confesser. Et donc, il faut aussi se rappeler que ce cadre de la confession, il n'est pas dans un cadre hiérarchique, il n'est pas dans un cadre de responsabilité ecclésiale de l'autorité qui doit prendre ses responsabilités par rapport aux prêtres délinquants. Et je pense que ce point, il est vraiment à entendre parce que bien souvent, il y a une confusion des genres qui est faite.
Marie Guerrier.
À propos de ce cas des évêques, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les évêques qui ont été condamnés, ce n'était pas dans le cadre de la confession. C'est forcément des informations qu'ils avaient eues par ailleurs sur des prêtres incriminés dans des affaires de pédophilie.
Nicolas, qui était avec nous hier. Bonjour Nicolas.
Bonjour Monsieur Praud.
C'est un sujet évidemment qui va passionner ces prochaines journées sur lesquelles les gens vont pouvoir s'interroger, notamment l'Église de Rome. Faut-il lever le secret de la confession ? Vous venez d'entendre le prêtre de Metz. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ?
Alors, moi, dans ce que j'ai entendu de votre conversation, moi, je suis très, très proche de ce que Anne-Marie Guerrier partageait et nous expliquait. C'est-à-dire que moi, je crois, je vois deux cas. D'abord, une victime qui vient se confesser. Moi, comme confesseur, je l'incite, je la presse à aller porter plainte, à faire savoir les choses, et ensuite.
Oui, mais si elle n'y va pas, si elle a peur, est-ce que vous prenez, vous, l'initiative d'aller à la police? Il y a quelque chose, on est au-delà, là, de l'Église. On est sur un point de vue humain, moral, c'est ça qui m'étonne dans votre position.
Alors attendez Pascal, Anne-Marie disait quelque chose de très vrai, de très, c'est-à-dire qu'en fait, si c'est dans le cadre de la confession, moi je suis tenu au secret absolu comme prêtre, mais le mode d'une conversation, si je peux parler avec la personne en dehors de la confession.
Donc vous pouvez vous arranger avec cette confession, c'est ce que vous voulez dire.
Non, c'est pas une question de s'arranger.
Je le comprendrais d'ailleurs, et je trouve que ça serait peut-être une bonne solution.
Non, c'est vraiment que, je pense, la question est ouverte pour l'Église, et je crois vraiment que nos évêques y travaillent. On a reçu, mais vraiment comme une... Enfin, comme quelque chose d'écrasant, ce que nous a révélé la Commission Sauvé.
Mais oui, mais justement, on a le sentiment qu'on n'en tire pas les conséquences. Le président de la Conférence des évêques de France, c'est pas n'importe qui, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, il dit cette phrase que je trouve étonnante et qui justifie d'une certaine manière que le ministre des Cultes, Gérald Darmanin, lui demande de venir s'expliquer. Le secret de la confession s'impose à nous et en cela il est plus fort que les lois de la République.
Il a reconnu une erreur hier dans la manière de formuler les choses. Parce que c'est pas comme ça qu'il aurait dû le dire. Quand il est sorti du plateau où il a prononcé cette phrase, il s'est dit, c'est pas comme ça que j'aurais dû le dire. Le problème, c'est l'articulation actuellement entre le droit français et le droit canon. Donc ça s'articule parfaitement, c'est ce que disait tout à l'heure le père Cédric Burguin. Mais il y a ses limites, c'est-à-dire qu'il y a ce secret absolu qui n'est pas remis en cause.
Mais la vérité, c'est qu'il le vit comme ça. C'est ça aussi qui est intéressant.
En cause pour l'instant, le secret absolu n'est pas remis en cause pour l'instant par le droit français.
Mais je suis d'accord. Donc, voilà. Mais vous voyez, et je le dis aussi pour Monsieur Burguin, et je le dis également pour vous, Monsieur l'abbé, il a dit les choses, au fond, telles qu'il les vit. C'est d'ailleurs très intéressant, parce que quand tu es religieux, que tu sois peut-être catholique ou musulman, tu considères que les lois religieuses sont au-dessus des lois de la République. Moi, je pense qu'il y a presque une forme de lapsus qu'il a dit, ou son inconscient a parlé.
Pascal, si je peux dire deux choses, moi qui me semble essentiel dans tout ça, c'est d'abord la première chose, c'est que la justice de Dieu qu'on rencontre dans la confession ne dispense pas de la justice des hommes. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de clair, d'évident. C'est pas parce qu'on s'est confessé qu'on est dispensé de devoir rendre des comptes devant les hommes et devant la justice des hommes.
Et ça, d'ailleurs, vous ne donnez pas forcément l'absolution.
Et d'ailleurs, on ne donne pas forcément l'absolution. Et on peut donner aussi l'absolution sous condition que celui qu'on a reçu aille se dénoncer. Et puis, la deuxième chose, moi, qui me semble... qu'il ne faut jamais perdre de vue et que le pape François nous a donné comme boussole, c'est qu'il y a la loi de l'Église et après il y a le bien des personnes. Et que ce qui est le plus grand, le plus haut, le plus fort, c'est le bien des personnes. Et ça, il y a, vraiment, moi, pour moi, je reçois ça comme justement l'ouverture de tout un travail de réflexion de la théologie catholique pour éclairer par ce que nous venons de recevoir et ce que nous vivons, pour progresser vers plus d'humanité et un bien commun à viser ensemble.
Écoutez, voilà. Merci Monsieur l'abbé de ces témoignages. Monsieur Burguin est parti. Je le remercie également d'être intervenu. Peut-être Marie Guéry va-t-elle rester encore quelques secondes avec nous, parce que nous avons Patrice qui nous attend. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question du jour. Faut-il lever le secret de la confession? Le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, a créé la polémique après ses propos sur Info.
La confession doit rester secrète, le secret de la confession restera parce que ça ouvre un espace de parole libre. La confession s'impose à nous, et en ce sens-là, est plus fort que les lois de la République. Parce qu'il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu.
Après ces propos, Mgr Éric de Moulin-Beaufort est convoqué par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en début de semaine prochaine afin de s'expliquer. Le secret de la confession est-il plus fort que les lois de la République? Ces paroles vous choquent-elles? 3210, 3210.
Et Marie Guéret, qui connaît bien les hommes d'église et qui connaît les us et coutumes de la confession, me disait hors antenne qu'en fait les choses, au-delà de la rigidité des lois, les choses ne se passent pas toujours comme ça.
C'est-à-dire que ce qui se dit en confession est en effet sous le sceau du secret absolu, mais les conversations peuvent se poursuivre hors de ce sacrement, qui est donc bien un moment spécial de relation avec Dieu. C'est ça le sacrement de la réconciliation. D'ailleurs, on parle confession, mais c'est le sacrement de la réconciliation pour l'Église. Et quand on sort de ce cadre, un cadre très formel, les conversations peuvent se poursuivre. Et c'est là où l'Église de France est attendue aussi. C'est-à-dire que tout ce qui se dit en dehors de la confession, ça doit être dénoncé. Et c'est ce qui a été d'ailleurs reproché pendant ces dernières années dans plusieurs affaires. C'est que, pour le moins, quand un évêque est informé, un prêtre est informé de ce que fait un confrère, par des courriers, par des alertes, ça oui, évidemment, ça commence par là. Et c'est d'ailleurs souvent ça qui est privilégié par les victimes, les familles de victimes. Dans les victimes
mais
que j'ai rencontrées...
Mais vous disiez, vous n'avez... Voilà, dans les victimes...
J'en ai rencontré quelques-unes, ça commence un petit peu à se chiffrer. Personne ne m'a dit, je m'étais confessée, j'avais dit au confesseur ce qui m'arrivait. C'est pas par ce biais-là, en fait, qu'elles ont parlé. Elles ont parlé par d'autres biais, et à ce moment-là, l'Église ne les a pas écoutées. C'était ça, le scandale. C'est que quand on parlait, même en dehors de la confession, quand ce n'était pas sous le sceau du secret, l'Église s'est tue pendant longtemps.
Patrice est avec nous. Bonjour, Patrice.
Oui, bonjour.
Vous habitez la Bretagne, vous avez 64 ans.
Absolument.
Vous êtes catholique ?
Oui.
Donc c'est intéressant aussi d'avoir un avis d'un catholique sur cette confession. Qu'en pensez-vous ?
Alors la question tourne autour des propos de Mgr de Moulin-Beaufort qui disait que les lois, par rapport aux lois de la République, je pense que c'est une question piégée. Il faut se reporter au Christ. Quand on lui demande de payer l'impôt, qu'est-ce qu'il répond ? Qu'est-ce qu'il répond ? Il dit... rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'il définit une séparation entre les deux domaines. Et on voit bien que le sujet aujourd'hui est exactement posé dans les mêmes termes. Les lois de la République sont-elles supérieures aux lois de l'Église ? Alors je pense qu'il y a deux façons de répondre. La première, c'est de dire il faut des espaces de liberté où on puisse tout dire. Chez le médecin, chez le psy, chez le prêtre, avec cette notion de secret professionnel. Et dans cet espace de liberté, comme ça a été dit par d'autres intervenants, il appartient au confesseur, en quelque sorte, d'engager la personne à respecter les lois de la République. Il y a aussi une autre dimension, c'est que on voit bien dans le contexte actuel qu'il y a une offensive d'un certain camp laïque qui veut absolument que les croyants reconnaissent que les lois de la République sont supérieurs aux lois de leur religion. Et c'est là où je dis que la question est piégée, parce qu'il y a tout un courant qui va exploiter ces propos ou cette recommandation de la CIAL pour essayer de faire passer autre chose que la question de la protection des personnes jeunes qui auraient pu être abusées. Donc je pense qu'il faut être très prudent et voir les arrière-pensées des uns et des autres.
Non, mais ce que je crois comprendre dans ce que vous dites, si vous êtes par exemple catholique et croyant, vous pouvez imaginer que l'avortement n'est pas une solution à laquelle vous contraindrez. Ça, je l'entends, mais ça ne pose des problèmes à personne. C'est un choix personnel. Vous êtes une femme, vous ne souhaitez pas vous faire avorter parce que vous êtes catholique, parce que vous êtes pratiquante, et j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Et en ce sens, les lois de l'Église sont plus importantes pour vous que toute autre loi. Donc je l'entends. Mais dans les cas que nous décrivons, lorsque, on va les répéter, lorsque une victime vient en confession rapporter des violences, ou lorsque même un criminel vient rapporter des violences, on est sur, à mon avis, une autre forme de possibilité d'agir. Et là, vous n'agissez pas que pour vous-même, vous agissez également pour les autres.
Oui, mais je comprends bien votre logique.
C'est ça la difficulté.
Oui, mais je vois bien votre logique, qui est celle d'obtenir un oui, les lois de la République sont supérieures dans tous les domaines.
On n'est même pas sur des lois de la République, on est tout simplement sur des lois morales, pardonnez-moi.
Mais un certain nombre de réponses ont été apportées dans les discussions précédentes, qui indiquaient que, premièrement, ce genre d'aveu se faisait rarement en confession, mais souvent dans des discussions en parallèle, qu'il y avait possibilité de donner l'absolution et puis de poursuivre la discussion, que la plupart des choses se faisaient hors ce canal-là. Donc on voit bien que en focalisant le débat sur ce point précis, il y a une tentative, alors qui peut être honnête, hein, je n'en ai pas en cause, mais une tentative d'enfoncer un coin dont je dis que je me méfie.
Non, mais j'ai bien compris, débat, et vous n'avez pas tout à fait tort. Mais oui. Pour tout vous dire, c'est Éric de Moulin-Beaufort qui a été maladroit, parce que les lois de la République, c'est quelque chose qui est dans l'atmosphère médiatique depuis plusieurs mois.
Il a repris l'expression de la question qui lui était posée.
Ben oui.
Voilà.
Ben oui.
Et
il s'est fait un peu piégé parce que, en fait, il y a déjà un débat sur l'islam. Est-il au-delà, au-dessus, plus exactement, des lois de la République? Et lui-même a pris à son compte cette expression, et je trouve qu'il a été particulièrement maladroit. Merci beaucoup, Patrice.
Je vous en prie.
Vraiment merci. Je vais remercier Marie Guerrier. Merci beaucoup.
À bientôt.
On va marquer une nouvelle pause. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier qui est toujours là.
Vous pouvez réagir à d'autres sujets. Le taux de chômage devrait atteindre en France d'ici la fin de l'année 7,6% selon l'INSEE, du jamais vu depuis 2008. Mais est-ce que cela va durer? Emmanuel Macron peut-il atteindre son objectif de 7% de chômage en 2022? L'économiste Eric Heyer était l'invité de RTL Midi.
Le chiffre à court terme peut effectivement approcher les 7% à la fin du quinquennat, mais attention, ce sera qu'un chiffre à court terme. On peut penser qu'aujourd'hui, quand même, les entreprises, parce qu'il y a des difficultés de recrutement, n'ont pas licencié autant qu'elles auraient dû le faire compte tenu du choc d'activité, parce qu'elles veulent garder les salariés dans leur entreprise au moment où la reprise sera là. Et donc, sur le moyen terme, je pense qu'il y aura tout de même un chômage qui va beaucoup moins ralentir que ce que l'on voit aujourd'hui.
Et dans le même temps, vous en parlez hier dans l'émission Défait le Monde avec Cyprien Sini, plusieurs secteurs sont touchés par une pénurie de main-d'œuvre. Le milieu de la coiffure ne parvient plus à attirer dans ses salons. 15 à 20% de postes sont à pourvoir. Et selon l'Union nationale des entreprises de coiffure, les professionnels recherchent entre 10 000 et 12 000 collaborateurs dans toute la France. Est-ce votre cas? Une conséquence, les délais de rendez-vous peuvent s'allonger dans certains salons.
C'est vrai qu'avec vous, en même temps, vous n'allez pas, favoriser forcément ce grand métier de la coiffure. Nicolas est avec nous, il est prêtre, il nous écoute et il nous accompagne peut-être. Et il va pouvoir intervenir en écoutant Marie, puisque Marie habite Paris. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et que répondez-vous à cette question du jour? Faut-il lever le secret de la confession?
Alors, je pense d'abord qu'il faudrait ne pas se tromper de discussion. La discussion, c'est pas de savoir si les lois de la République sont au-dessus des lois de l'Église ou pas. C'est pas du tout le problème. C'est de ramener l'Église à sa mission. Quelle est la mission de l'Église? Témoigner de la vérité. Il n'y en a pas d'autre. La seule raison d'être de l'Église et de ses ministres, c'est de faire que la vérité soit préservée, entendue, dite et qu'elle habite le monde. Rien d'autre. Face à ça, est-ce qu'on peut continuer à institutionnaliser le silence, qu'on appelle ce silence secret de la confession ou pas? Donc, évidemment qu'il faut le lever. Parce que ce n'est pas une question de loi de la République ou pas, de pouvoir temporel ou spirituel. C'est une question, comme l'a dit d'ailleurs le pape lui-même, de faire que le clergé prenne ses responsabilités. Et sa seule responsabilité, c'est de témoigner, de rendre hommage, de respecter la vérité. L'Église a légiféré sur beaucoup de choses.
Vaste sujet, la vérité.
Et mais oui, mais c'est la mission de l'Église.
Mais oui, mais quelle vérité, Marie?
Sa seule définition.
La vérité, c'est-à-dire... C'est quoi la vérité, Marie?
C'est la question que pose Ponce Pilate à Jésus. La vérité, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile, qu'on ne peut pas faire le mal, que le mal doit être condamné, que ce qui compte, c'est le salut des âmes, le salut de toutes les âmes. Et au nom de cela, de cette vérité que l'Église est venue apporter dans le monde, je crois qu'il est insoutenable pour les catholiques pratiquants que je suis et pour les victimes de toutes sortes de violences de l'Église d'ailleurs, de dire qu'il y a encore quelque chose comme un secret face... Alors je vais employer un terme, mais je pense qu'il faut l'employer parce que j'ai peur de l'euphémisation, vous voyez, de la minimisation des choses. Face au mal.
Au mal.
Au crime et au mal.
Au mal, M.A.L.
La vérité, elle s'oppose au mal, M.A.L.
Alors, je lis les textes, si j'ose dire. La mission s'articule dans trois dimensions. Annoncer la bonne nouvelle du Christ, témoigner que Jésus le Christ est le chemin, la vérité et la vie dans le monde. Voilà. S'ouvrir à la relation aux autres dans un esprit de dialogue et de partage.
Voilà.
Jésus, bon, vous avez été vous-même victime du secret de la confession ?
Victime de la violence comme mode de fonctionnement de l'Église.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, si on reprend la question dont vous débattiez avec le précédent auditeur, évidemment, nous parlons des crimes sexuels à l'heure actuelle et je crois que Jean-Marc Sauvé, qui a présidé cette commission, a mis les mots sur ce qui est en train d'être révélé. Mais je crois que plus largement, hélas, il y a non seulement des crimes qui sont encore tus, mais qu'on a permis en toute impunité à certains membres du clergé, qui occupent des postes de direction, d'utiliser pour seul moyen d'exercice du pouvoir la violence.
Oui, mais vous-même ?
Oui, je l'ai subi et je le subis encore.
Mais vous voulez peut-être pas en dire davantage ?
Non. Non, mais j'ai connu une violence dans l'Église et dans ses établissements comme je n'en ai jamais connu ailleurs de ma vie.
Mais vous avez aujourd'hui 50 ans, donc c'était lorsque vous étiez ou collégienne ou lycéenne ?
Non, c'était il y a peu.
C'était il y a peu de temps ?
Oui, c'était il y a peu de temps. C'est-à-dire que, Pascal Praud, si je reviens à une analyse, c'est pas pour me défausser, hein, mais je veux pas que l'émotion prenne le pas sur l'analyse, c'est que je crois que l'Église, enfin quand je dis l'Église, son clergé, et pas tout le clergé, parce que j'ai connu des prêtres extraordinaires, mais je crois que...
C'est forcément une personne d'ailleurs, c'est une personne.
Absolument.
C'est pas un système, c'est une personne.
Alors c'est la question que je me pose. Je pense que l'Église a institutionnalisé le silence, voire l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on a minimisé les fautes.
Vous avez eu le sentiment dans votre affaire.
Mais je n'ai pas le sentiment, je l'ai vécu.
Donc la hiérarchie, par exemple, était au courant de ce qui se passait ou
Bien sûr, la hiérarchie, les catholiques qui travaillent pour cette hiérarchie sont au courant.
Et personne ne bouge.
Et personne ne bouge.
Mais vous ne souhaitez pas en dire davantage sur l'antenne ?
Non, il y a une compromission dans la complicité. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris des choses scandaleuses, j'ai parlé du mal, hein, le mal, l'opposé du bien et l'opposé de la vérité, on m'a dit « Ah bah oui, on est au courant ».
Bon, Marie, restez avec nous. On marque une pause et Nicolas, qui est prêtre, va peut-être pouvoir vous aider. En tout cas, je le souhaite. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier.
Et vous pouvez réagir dans l'émission au propos de Joe Star, invité de RTL ce matin à l'occasion de la sortie de son prochain livre, Le Petit Didier, chez Robert Laffont. L'artiste a réagi à la montée d'Éric Zemmour dans les sondages.
Il fait partie de ces espèces de stigmates de l'époque, pour moi, qui me donnent l'impression, quand j'étais plus jeune, quand je disais de l'anticipation, ben on y est. On y est là, il fait partie de ces stigmates-là au même titre que Trump, le climat, les propos de Zemmour aussi. Je pense qu'à un moment donné, les Français vont trancher, quoi, et que Zemmour, c'est un fantasme bon marché pour une certaine partie des gens.
Partagez-vous les propos de Joe Star, 3210, 3210.
Nicolas a écouté donc le témoignage de Marie, témoignage douloureux. Nicolas, je le rappelle, est prêtre et peut-être a-t-il une question à poser à Nicolas, à Marie, pardonnez-moi, ou un commentaire a-t-il à faire ?
Le seul commentaire que j'ai à faire, c'est que d'abord j'ai été très touché par ce que cette dame vient de nous partager. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit à propos de la mission de l'Église, qui n'est là que pour rendre témoignage de l'amour infini du Christ pour tout être vivant. Et je lui souhaite de tout cœur de pouvoir rencontrer là où elle est, les personnes qui pourront l'aider, qui pourront la libérer de cette, l'aider à se libérer de cette souffrance qu'elle porte. Et je suis meurtri que l'Église, qui est l'institution par laquelle j'ai donné ma vie au Christ, eh ben, elle puisse blesser certains de ses membres de cette façon-là. Et je crois vraiment, enfin moi, vous savez, la sortie du rapport Sauvé, je le redoutais jusqu'à mardi matin, et puis depuis mardi matin, depuis que j'ai entendu les paroles de Monsieur Sauvé, et je me dis voilà un homme qui a travaillé pour le bien de tous et pour le bien de l'Église, parce que la vérité, enfin, vous savez, dans l'Évangile, Jésus dit plusieurs fois, la vérité fera de nous des hommes libres. Mmh. Et ben, chaque fois qu'on fait grandir la vérité, on permet à l'homme de grandir.
Bah oui, mais c'est pas le cas.
Alors.
Oui, mais c'est pas le cas. Enfin, excusez-moi.
Attendez, laissez-moi.
Non, laissez Marie parler, monsieur l'abbé. C'est intéressant.
Je pense qu'il y a une confusion des discours. C'est-à-dire qu'on entend l'Église reprendre son discours d'amour, de compassion, d'entente, etc. Mais d'abord, elle a failli. C'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté son message, elle ne l'a pas fait entendre, et précisément ce que vous dites, que je trouve l'entente et peut-être une guérison, enfin je ne sais pas, là où je suis, mais précisément, je ne peux pas la voir dans l'Église, il faut que j'en sorte pour retrouver une dignité et me reconstruire, c'est bien le problème, c'est-à-dire que l'Église a abîmé durablement des personnes et elle a surtout institutionnaliser le silence. Et j'en reviens à cette question. Attention à la confusion des langages. Nous sommes en train de parler de crime. La commission Sauvé est une commission qui interpelle le droit, la morale aussi, d'accord. Donc ne plaquons pas un discours de l'évangile religieux, de l'émotion, de la compassion sur des crimes.
Je pense alors, madame, je ne sais pas si vous avez entendu mon intervention précédente, mais j'ai bien parlé de crimes et j'ai bien dit aussi que la justice de Dieu qui se vit dans la confession ne remplace jamais la justice des hommes et qu'elles sont complémentaires l'une à l'autre et qu'un crime doit être puni comme un crime, un péché doit être accompagné comme un péché.
Bon, Nicolas, je vous interromps.
Je crois que fondamentalement, nous sommes d'accord.
Bon.
Oui, mais si nous sommes d'accord, je pense que justement, une question morale et juridique et qui soit dans le respect et de l'Église, de son message et du droit de la République, demanderait qu'à des personnes qui ont permis ces scandales et leur étouffement, démissionnent.
Merci, monsieur l'abbé. Vraiment merci de nous avoir accompagnés pendant ces 45 minutes. Marie va rester parce que je vais proposer à Marie un autre témoignage, celui d'un psychologue et Yves qui accompagne beaucoup de victimes de prêtres et qui va peut-être pouvoir nous donner un avis sur la conversation que nous avons eue. Mais c'est l'heure de monsieur Olivier.
Bonjour Pascal.
Bonjour à tous. Facebook.
Exactement.
Comment allez-vous?
Et vous, ça va? La forme?
Mais écoutez, ça va.
Bon, super. Allez, sur nos réseaux sociaux. Pour Anne, il faut absolument que le secret de la confession soit aboli pour certains crimes. Franck nous écrit estimer que la confession soit au-dessus des lois de la République. C'est honteux et surtout contraire aux valeurs de notre pays. Et on conclut avec Marie-Sophie, se confesser c'est sacré. Si on le remet en question, plus personne ne se rendra dans l'isoloir.
C'est pas l'isoloir, si vous me permettez. Je suis pas sûr que là où l'isoloir dans le confessionnal, si vous me permettez, cher Olivier.
Est-ce que j'aurais mal retranscrit? C'est possible. Hein
non, parce que l'isoloir, c'est on vient voter dans un isoloir, mais a priori c'est plutôt un confessionnal.
J'aurais dû.
Mais non, mais c'est pas grave.
Mais si, c'est moi qui fais l'erreur, Pascal. C'est moi.
Mais c'est une manière parfois de se confesser également. Dans l'isoloir.
Bon, pardon.
Dieu reconnaîtra les siens. Vous êtes formidable, cher Olivier.
Merci à vous, j'espère que vous le pensez.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Politique, sport, culture, ouais, l'actualité non, complète en un clic sur RTL.fr. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Nous vous attendons au 3210 sur d'autres sujets. Le ministre de l'Éducation nationale a publié un texte destiné à mieux accompagner les élèves transgenres à l'école. Un élève pourra demander, en accord avec ses deux parents, l'utilisation d'un nouveau prénom au sein de l'établissement. Un prénom d'usage qui ne sera pas pris en compte pour les épreuves de certains diplômes nationaux. Nous attendons vos réactions au standard. Le maire Les Républicains de Montélimar vient de prendre un arrêté anti-mendicité pour le centre-ville. Il estime que la tranquillité, la salubrité, la sécurité et l'ordre public ne sont parfois pas assurés. Qu'en pensez-vous ? Là aussi, nous vous attendons au standard. Un seul numéro, 3210-3210.
Nous sommes donc avec Yves, qui est psychologue. Bonjour Yves.
Bonjour Pascal.
Vous avez entendu le témoignage de Marie, elle est restée avec nous et peut-être pouvez-vous lui apporter, j'allais dire, du réconfort.
Je ne sais pas trop, je ne connais pas Marie et sa situation. J'ai juste envie de dire qu'il faut toujours différencier les personnes des institutions qu'elles représentent et que parfois, hélas, dans beaucoup d'institutions, dont l'Église, je pense qu'il y a beaucoup parfois de violence ou de maladresse, mais pure par naïveté ou par non-formation aussi aux complexités. J'en discutais avec un responsable de séminaire qui me disait qu'en fait, ils devraient former un peu leur prêtre au management. Parce que simplement, dans les situations, ils ne savent pas manager les situations et parfois, ils réagissent comme n'importe quel... ils sont parfois un peu dépassés par certaines situations. Il y a beaucoup de souffrance aussi. Et quand je dis ça, je ne dédouane pas personne. Je distingue bien les personnes de leurs actes. Et il y a des actes qui sont monstrueux, qui ne sont pas justifiables. Voilà. Je ne peux pas répondre à Marie parce que je ne connais pas sa situation et je ne voudrais pas la blesser. Mmh.
Mais vous accompagnez vous-même des victimes de prêtres?
Oui, alors, je vous avais dit tout à l'heure énormément. Alors non, ça m'est arrivé là actuellement, on m'a demandé d'accompagner des victimes. Et il y a quelques années, j'avais déjà accompagné une personne qui avait été victime d'un religieux. Et je dirais oui, j'accompagne actuellement quelques personnes qui ont été abusées par un prêtre qui était un pervers manipulateur pur et dur et qui a abusé sexuellement de beaucoup de monde.
Est-ce que vous avez le sentiment pour ces victimes que le fait que ce soit un religieux qui ait abusé d'eux est vécu encore plus douloureusement que si c'était un membre de la famille ou une personne qui n'était pas de l'Église?
Alors, oui et non. Le fait qu'on ait abusé par quelqu'un, je dirais, le traumatisme en tant que tel, il est là. Après, le fait que c'est quelqu'un qu'on voyait comme un quelqu'un à qui on faisait une confiance, comme un parent, il y a une sidération, effectivement, en plus de ce qui est arrivé, qui va expliquer aussi le silence de beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est tellement sidérant qu'il y a une incapacité à pouvoir réaliser ce qui se passe. Et je dirais, dans beaucoup de situations, depuis 70 ans, c'est aussi ce qui est arrivé, parce que ça fait 20 ans qu'on en parle. Mais avant cela, moi, la première fois que j'ai entendu une situation, je suis catholique, dans un état de sidération où je ne pouvais pas imaginer qu'un religieux puisse transgresser la loi divine, transgresser la loi de l'Église, puisse commettre le mal dans le cadre de sa mission. Et donc, il y a une sidération qui se rajoute, en plus de la situation de victime, par rapport au statut même, je dirais...
C'était le sens de ma question.
Voilà, mais je dirais, moi, en tant que psychologue, demain, j'ai des gens en détresse qui viennent me voir... je suis en situation de pouvoir, entre guillemets, symbolique. Si j'abusais de quelqu'un, la personne serait sidérée parce que de ma position, je n'ai pas abusé. Et ce que je veux dire, c'est que la société s'étant complexifiée, j'ai l'impression que beaucoup de prêtres, et je travaille un petit peu parfois là-dessus, ne sont pas du tout préparés à la complexité même de ce qui se passe sur le plan psychologique dans la relation d'aide, puisque beaucoup de prêtres aujourd'hui font parfois de l'accompagnement psychologique quand ils font de l'accompagnement spirituel, dans le sens que, je vous assure, ils reçoivent des détresses épouvantables.
Ils jouent les psys, c'est ce que vous voulez dire.
Malgré
mais
eux,
ça a toujours été le cas, sans doute. Sans doute, ils avaient un travail de psy sans le dire.
Mais autrefois, autrefois la société était plus simple et la souffrance morale jusque dans les
années 50. Était plus simple autrefois. Ce qui se passait parfois dans les familles autrefois était très violent. Hein.
J'ai pas dit que c'était mieux. Hein. J'ai dit plus simple dans le sens qu'on gérait pas la souffrance morale de la même manière et on la mettait sur le boisseau.
Oui, ça c'est sans doute vrai. C'est-à-dire qu'on l'acceptait plus qu'aujourd'hui.
Oui, on faisait avec. Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les situations de détresse et le besoin de parole est tel que lorsqu'on reçoit de la détresse, on peut très vite être déstabilisé psychologiquement. Et on fait 6 ans de formation en psychologie. Enfin, moi j'ai fait 6 ans. Pour pouvoir se travailler cette relation. Et je vois que beaucoup de prêtres qui accompagnent énormément ne sont pas formés aux enjeux psychologiques.
Ben merci Yves, vous étiez le dernier auditeur sur ce sujet. Merci à Marie également, à qui on va souhaiter bon courage. Merci beaucoup
merci,
Marie.
Merci à vous. J'insiste juste sur le fait que ce n'est pas du tout une question de management ou de naïveté. Hein. C'est une question de brutalité institutionnalisée. Je ne voudrais pas laisser finir sur le fait que les prêtres manqueraient de formation, ce n'est pas le problème. C'est le fait qu'ils concentrent souvent les pleins pouvoirs sans contre-pouvoir.
Merci beaucoup Marie, merci à Yves. Il est 13h56, c'est l'heure du crime précisément, avec ce générique qui arrive et le programme que va nous donner l'ami Jean-Alphonse Richard.
Eh bien Pascal, vous savez bien que le crime c'est comme l'amour.
Ah bon ?
Il n'y a pas de saison et il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, je vous propose un petit meurtre entre mamies. Alors, je vous dis tout de suite, le titre, il n'est pas de moi, c'est Libération qui avait trouvé ça. Mais ça se passe en Belgique en 2015. Pourquoi Clara, 84 ans, aurait-elle tué Suzanne, 93 ans ? Tous deux, je le précise, étaient saines de corps et d'esprit. Pourquoi Clara aurait-elle maquillé... On verra. Pas sûr, on verra. Pourquoi Clara aurait-elle maquillé la scène de crime en accident ? Ben je vous raconte tout ça à 14h30, le petit meurtre entre mamies sur RTL.
Nous allons marquer une pause, il y aura le flash et nous parlerons du chômage. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est quasiment 14h. Flash avec Sébastien Rouxel.
Et après le constat glaçant, 330 000 victimes d'agressions sexuelles dans l'église catholique en France depuis les années 50, l'épiscopat crée la polémique. Pour le président de la Conférence des évêques de France, le secret de la confession reste plus fort que les lois de la République. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, vient de réagir à ces propos.
Il n'y a rien de plus fort que les lois de la République dans notre pays. Ça tient en une phrase et c'est très clair. Le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur de recevoir le président de la Conférence des évêques de France pour que les choses soient claires de ce point de vue-là. Et l'échange aura lieu, je crois, la semaine prochaine.
Gabriel Attal qui s'exprimait il y a quelques minutes. Il a aussi annoncé que le pass sanitaire ne sera pas allégé avant le 15 novembre prochain. Selon lui, l'épidémie ne recule plus dans une trentaine de départements. L'exécutif a décidé de suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Les soignants et les proches des personnes immunodéprimées sont appelés à recevoir une nouvelle dose de vaccin anti-Covid. Ils peuvent dès aujourd'hui prendre rendez-vous pour ce rappel. 4 700 000 Français concernés. Elle réclame toujours des effectifs supplémentaires et plus de reconnaissance. Les sages-femmes dans la rue aujourd'hui pour la 6e fois cette année à Paris. Manifestation en cours entre Montparnasse et le ministère de la Santé. Circulation des trains totalement interrompu entre Morsinx et Dax sur les deux voies. Un train de marchandises a déraillé ce matin dans les Landes sur la ligne Bordeaux-Hendaye. Pas de blessés, mais tous les TGV en provenance et à destination de Paris auront Bordeaux comme terminus et gare de départ. Les Marseillais attendus dès 17h au stade Vélodrome pour rendre hommage à Bernard Tapie. Des images de la mythique finale de Ligue des Champions remportée par l'OM en 93 vont être diffusées. Et c'est à la 44e minute, juste après la tête de Basile Boli, que le cercueil recouvert d'un drapeau tricolore et d'un autre couleur du club fera son apparition. Des supporters le porteront ensuite jusqu'au centre de la pelouse. Autre hommage, celui organisé la semaine prochaine en mémoire de Samuel Paty dans les établissements scolaires. Ce sera le 15 octobre. La dernière heure de cours sera consacrée à des échanges sur la construction construction de l'esprit critique, sur la place du professeur dans la société également. Pas de minute de silence imposée. Le lendemain, une plaque en son honneur sera dévoilée au ministère de l'Éducation en présence de sa famille, un an jour pour jour après son assassinat. Et puis les Tanzaniens, il s'appelle Abdulrazak Gurnah, il est le lauréat du prix Nobel de littérature. Le jury le récompense pour son récit, je cite, « empathique et sans compromis des effets du colonialisme ». Demain, c'est le Nobel de la paix qui sera décerné. La météo demain, pour finir, ce sera encore une belle journée. Des nuages et du brouillard en matinée encore, mais tout ça va se dissiper assez rapidement. On aura du soleil partout, sauf en Corse, où le ciel restera assez couvert avec quelques averses. Côté température, comptez 17 à 21 degrés au nord dans l'après-midi, 18 à 25 au sud. RTL, 14h02. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Sébastien.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Le taux de chômage devrait atteindre en France d'ici la fin de l'année 7%. C'est du jamais vu depuis 2008. Dans le même temps, on vous en parlait hier dans l'émission On défait le monde. Le milieu de la coiffure, par exemple, ne parvient plus à tirer dans les salons. 15 à 20% de postes sont à pourvoir. Alors, on est avec un chef d'entreprise, Audrey, qui est gérante de 3 salons de coiffure, précisément, qui habite Boulogne-Billancourt. Bonjour. Bonjour Audrey.
Bonjour
Audrey. Et merci d'être avec nous. C'est intéressant parce que vous recherchez 4 personnes et vous ne les trouvez pas.
Non, c'est catastrophique. J'ai 3 salons, 3 beaux salons à Boulogne-Billancourt et je passe des annonces par plusieurs médias et impossible de trouver, d'avoir des candidats.
Mais ça c'est fou. Quel profil vous cherchez ?
Alors moi je recrute des collaborateurs, des coiffeurs polyvalents. Mmh. Et en CDI, en temps complet.
Mais personne ne vient.
Non.
C'est-à-dire que vous n'avez vu personne. Vous avez peut-être refusé quand même des candidatures parce qu'elles n'étaient pas...
Alors, une candidate, enfin, un candidat, effectivement, mais sinon, non, depuis plus d'un mois. D'ailleurs, on a des annonces de manière constante, toute l'année. Mais on a personne qui se présente là depuis post-Covid. C'est encore pire qu'avant.
Mais c'est-à-dire que les écoles ne forment pas assez de coiffeurs ou les jeunes se détournent de ce métier ?
Alors aujourd'hui, effectivement, il manque d'apprentis. Aujourd'hui, d'ailleurs, je recrutais des apprentis que je n'ai pas trouvés. Il n'y en a pas assez. Et puis aussi, il y a beaucoup de coiffeurs aujourd'hui qui sont demandeurs d'emploi. Donc je pense qu'il faudrait aussi regarder du côté de Pôle emploi.
C'est-à-dire qu'ils préfèrent rester au chômage que venir chez vous ?
Il y a beaucoup de coiffeurs qui sont inscrits à Pôle emploi et qui ne viennent pas travailler chez nous, exactement.
Ça, c'est pas bien.
Il y a plus de 10 000 postes à pourvoir en France aujourd'hui en coiffure.
Un coiffeur chez vous, le profil, donc, si j'ai bien compris, c'est un jeune coiffeur ?
Exactement, jeune ou plus ou moins jeune, il n'y a pas assez. Leur envie, leur passion pour la profession, leur dynamique. Bon.
Il va être salarié, donc, dans un de vos salons de coiffure ? Est-ce qu'on peut connaître le salaire de ce coiffeur ?
Leur salaire net, c'est entre 1600 et 2000 euros environ.
Dans votre métier, il y a un peu de pourboire parfois ?
Il y en a un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Effectivement, la question de la rémunération est un sujet important. On aimerait vraiment pouvoir augmenter les salaires. À mon sens, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment devoir faire évoluer. Mais aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens. En coiffure, une entreprise qui est très bien tenue dégage une marge vraiment très, très, très faible. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir...
C'est quoi une marge faible ? C'est 10% ?
C'est 10%, pas plus, oui.
Donc vous avez 3 salons de coiffure ?
Oui,
donc exactement. Qui sont d'une même enseigne ?
Moi, je suis sous l'enseigne Front Provo et Saint-Algue.
D'accord. Donc,
Provalliance. Ouais.
Voilà, on ne fait pas de la publicité en disant cela. On est vraiment dans un cadre d'information. Parce que c'est important de connaître ces marques qui sont effectivement assez, assez connues, qui sont assez chics, disons-le. Et ce n'est pas non plus donner une coupe dans un de vos salons de coiffure.
Ça n'a rien à voir, c'est une histoire de savoir-faire et on a une expertise. Et
mais non, mais j'entends bien, mais je dis c'est un prix qui est assez élevé. Ce sont des coiffeurs qui s'adressent à une clientèle aisée, c'est tout ce que je voulais dire.
Et pourtant, même si nous avons des prix corrects, ce n'est pas encore assez.
Ah ben, c'est combien par exemple la coupe pour un garçon?
C'est 35 euros.
35 euros, bah, oui, c'est pas donné, hein, 35 euros.
Oui, mais la masse salariale est beaucoup trop importante. Mmh. Nous, aujourd'hui, la masse salariale, ça représente environ 50% de notre chiffre d'affaires. Mmh. Donc, on n'a pas de potentiel. On ne peut pas faire évoluer
35 nos euros, c'est-à-dire, parfois je me dis ça, je dois être un des derniers peut-être à me dire ça, c'est 200 euros quand même, hein, c'est 200 francs. C'est 200 francs pour se faire couper les cheveux quand même. Hein. Jadis, c'était 30, 40 francs la coupe.
Il y a quelques années, vous me direz. On n'avait pas les mêmes loyers, on n'avait pas le même coût aujourd'hui de l'énergie. Tout ça sont des postes importants chez nous et on ne peut pas, enfin, on n'a pas de pouvoir de faire évoluer ça.
Bah merci en tout cas Audrey, hein, parce que c'est un merveilleux métier, je trouve, que celui de coiffeur. Et oui, j'ai toujours été frappé combien un salon de coiffure est un théâtre, combien c'est agréable, combien les coiffeurs sont heureux. Toujours heureux d'être là. Je trouve qu'il y a un contact avec le coiffeur qui est souvent sympathique. Il y a des métiers, j'ai l'impression, où parfois les gens s'ennuient un peu, mais c'est formidable, un salon de coiffure.
On a une très belle profession, un vrai savoir-faire, et c'est important de l'entretenir. Et au dernier confinement, on s'est rendu compte
que les gens avaient besoin de vous. Je suis bien d'accord avec vous. Puis on peut traverser toute la vie avec une paire de ciseaux. Hein. C'est ça qui est formidable. Si vous avez un peu de savoir-faire et de talent, bah vous pouvez traverser la vie avec votre paire de ciseaux.
Exactement.
Merci Audrey. On va être avec Michel, qui est chef d'entreprise. Il va nous dire ce qu'il en pense. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Michel, qui est chef d'entreprise à Toulouse, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Est-ce que vous avez du mal à trouver des salariés à recruter?
Ah mais moi, quand j'entends ces chiffres ou ces prétendus chiffres, j'hallucine totalement, quoi. J'hallucine parce que, à mon avis, ce sont plutôt des chiffres vis-à-vis d'intention de recrutement. Moi, je ne trouve aucun salarié. Le monde du bâtiment n'arrive pas à trouver des salariés, que ce soit des salariés qualifiés, que ce soit des manœuvres. Moi, sur Toulouse, je suis président d'une association de chefs d'entreprise. On se réunit tous les mois. Quelles que soient les professions... Alors, je ne parle pas des TPE ou des auto-entrepreneurs, bien sûr. Mais quelles que soient les professions, quel que soit le format et la taille de l'entreprise, il y a une difficulté et une carence dans le recrutement qui est complètement incroyable.
C'est pour ça que vous dites prétendu chiffre ?
Ah ben oui, prétendu. Je ne vois pas d'où sortent-ils. Le monde de l'événementiel, par exemple. Nous sommes en période de post-Covid. Il y a des événements s'organisent de partout, puisque les Français ont envie de sortir, d'aller dans les réunions.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je comprends pas. Quels sont les chiffres qui sont faux selon vous ?
Ah ben à mon avis, on prétend que le chômage baisse.
Et il ne baisse pas ?
Ben non, il ne baisse pas. Je vois pas comment pourrait-il baisser. Alors, moi, écoutez-moi, Pascal.
C'est-à-dire que vous, par exemple, vous ne recrutez pas ?
Ah mais si, je recrute, mais je trouve personne. Moi, quand je vois qu'à Pôle emploi, il y a des chômeurs qui sont, comme disait la précédente auditrice, dans le service, ou qui soient dans le monde du bâtiment, quand je vois qu'à Pôle emploi, il y a des chômeurs dans le bâtiment, c'est pas possible. Le chômage, c'est leur salaire de base, et leur salaire complémentaire, c'est le travail au noir qu'ils font à côté. C'est pas possible.
Il n'y a pas généralisé. Vous êtes dans quel domaine, Michel ?
Moi, je suis dans le bâtiment.
Alors, dans le bâtiment, il y a possibilité de faire du noir. C'est-à-dire, dans le bâtiment, il y a de possibilité de faire du noir. C'est-à-dire que vous êtes peintre, vous êtes carreleur, vous êtes plombier, vous pouvez faire au noir des petits...
Un chômeur qui est au carrelage, il touche son chômage, et après...
Oui, mais à un moment, ça va s'arrêter. Il faut bien revenir dans le circuit.
Ben vous connaissez le système. On retravaille pendant un certain temps, on s'arrête et on recommence. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Moi, j'ai besoin de maçons, j'ai besoin de charpentiers.
Et vous ne les trouvez pas ?
Mais non, il n'y en a pas.
Vous avez besoin de combien de personnes ?
Moi, je ne suis pas une grosse entreprise, mais j'ai besoin aujourd'hui de 3 maçons, j'ai besoin de 2 charpentiers.
Et vous payez combien un maçon ?
Mais le maçon, ils sont à 1800 euros net.
Bon, et si vous le payez plus cher, à ce moment-là, vous pourrez recruter ?
Pascal, ne rentre pas dans ce débat. Moi, j'ai une théorie qui est très simple.
Non, mais je ne rentre pas dans ce débat. Je cherche une solution pour vous. Est-ce que c'est une question de prix ?
Non.
Alors, pourquoi ils ne viennent pas ? C'est parce que, pour vous, ils ne viennent pas parce qu'ils bénéficient de protections sociales qui sont...
Exactement.
Voilà, qui sont trop...
Qui sont abusives. Voilà. Qui sont abusives.
Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ?
Alors, de toute manière, pour moi, là, j'ai une théorie, mais je sors du contexte classique et je change de paradigme, c'est le mot à la mode. Pour moi, c'est augmenter les salaires de 20%. C'est baisser les charges sociales de 20%. Mmh. Ça veut dire que pour le chef d'entreprise, quelles que soient les entreprises, c'est le même coût. Effectivement, l'État va peut-être récupérer 20% de charges sociales à moins. Mmh. Simplement, il va récupérer 20% d'économie, enfin 20% de...
Mais j'ai compris effectivement la manip. Mais moi, il y a quelque chose de plus simple que je ne comprends pas.
Non, mais en même temps, baisser le chômage, et au bout de 6 mois, on commence à réduire les indemnités et au bout d'un an, il n'y a pratiquement plus rien. Obligé.
Oui, mais ça dépend. Ce qui est vrai pour un maçon n'est pas vrai forcément pour une autre profession. Moi, ce que je trouve étonnant là-dedans, c'est que, par exemple, vous cherchez un maçon sur Toulouse. Bon, il y a un maçon qui est au chômage à Toulouse. Bon, on lui propose une place chez vous. Bon, il refuse. Bon, on lui coupe son chômage. C'est ça que je ne pige pas dans Pôle emploi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on lui propose une place qui correspond évidemment au lieu où il habite, qui correspond également au métier qu'il a fait, bien évidemment, eh bien, il me semble que le demandeur d'emploi ne peut pas refuser peut-être une fois ou deux fois, mais après, les indemnités chômage, me semble-t-il, sont coupées. C'est ça que je ne comprends pas dans le système.
Nous sommes d'accord sur le principe, sur la vision intellectuelle du principe, mais le système l'interdit. Le système est permissif et permet n'importe quoi.
Bon, on continue cette discussion, mais tout d'abord Facebook avec Monsieur Olivier. Monsieur Olivier qui était dans l'isoloir tout à l'heure et qui en est sorti.
Sur nos réseaux sociaux, Pascal, Thierry s'énerve
sourire,
sur notre...
Olivier, c'est ça
oui, toujours, toujours le sourire. Même avec des erreurs aussi monumentales qu'elles sont.
Mais non, mais qui ne fait pas d'erreur, franchement.
Je vais peut-être être au chômage, Pascal. Mon poste est remis en question avec cette erreur.
Mais pas du tout, arrêtez, vous êtes... Il faut être très indulgent avec les gens en dessous de 25 ans.
Bon,
voilà.
Super.
Ils commencent leur métier, c'est bien normal. Nous, on n'a aucun mérite, on fait ça depuis des années. On n'a aucun mérite, en fait.
Vous parlez pour vous, là.
Bah, oui, en l'occurrence, mais moi, j'ai aucun mérite, je fais ça depuis des années. Franchement, tandis que Olivier, il commence.
Merci pour l'indulgence.
Je vous en prie.
Thierry s'énerve sur notre page Facebook. Les chiffres du chômage sont comme ceux des sondages. On leur fait dire ce qu'on veut. Oui. Pour Pascal, ce n'est qu'une communication politique. Les élections arrivent à grands pas, donc les chiffres sortent. Et on conclut avec Sophie. Tout cela m'étonne, car en tant que restauratrice, j'ai 3 postes à pourvoir et je ne trouve personne. Je vais peut-être postuler, Pascal.
Écoutez, je n'en sais rien, mais en fait, on est toujours surpris d'entendre beaucoup de chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter du personnel. Ça, c'est quelque chose qui nous étonne. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On parlera des propos de Joe Star dans une seconde, mais on termine donc avec Michel qui est chef d'entreprise à Toulouse. Michel qui a du mal à recruter un maçon, alors qu'il y a des maçons qui sont au chômage, précisément à Toulouse. Donc comment cela est-ce possible ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'ailleurs à Pôle emploi quand vous mettez en place l'argument que j'utilise ? Parce que j'imagine que vous avez des contacts avec Pôle emploi.
Ah oui, mais Pôle emploi.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Mais Pôle emploi, il dit que voulez-vous faire ?
C'est-à-dire qu'ils ont. Alors, ils ont, je ne sais pas, il ne doit pas y avoir des centaines de maçons qui sont demandeurs d'emploi à Toulouse. Il y en a quelques-uns.
Ça tourne. Alors, ça tourne. C'est ce que je vous disais. Ils sont au chômage d'un certain temps. Alors, je ne veux pas cibler sur la profession uniquement de maçon.
Non, mais vous, êtes dans le bâtiment. Mais, c'est pour ça que je dis maçon. Voilà. J'aurais pu être.
Mais voilà, c'est ça. Mais l'argument, c'est de dire ben oui, écoutez, on ne peut pas les obliger à travailler quand même. Voilà. C'est l'argument de massue.
À suivre, Michel. Et rappelez-nous, comme il reste juste quelques minutes, je voulais qu'on évoque ce qu'a dit Joe Star ce matin au micro d'Alba Ventura. Elle a. il a publié Le Petit Didier chez Robert Laffont et il a réagi à la montée d'Éric Zemmour. Et voici ce qu'il a dit. Joey Starr, il fait partie de ces espèces de stigmates de l'époque. C'est un fantasme bon marché pour une bonne partie des gens. Nous sommes avec Thibault. Thibault qui est employé de banque à Nantes. Que pensez-vous des paroles de Joey Starr ?
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Je comprends en fait ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, Éric Zemmour s'exprime sur des sujets simples et relativement fédérateurs. Les sondages le montrent en tout cas. Mais avant d'aller plus loin, il faut peut-être remettre les villes un peu au milieu du village, c'est quand même redire que Didier Morville, alias Joey Starr, c'est un artiste, mais c'est surtout un délinquant multirécidiviste. Donc il se permet de juger les propos d'Éric Zemmour, alors que lui, son commerce
était... Je ne peux pas vérifier ce que vous dites. Je ne suis pas sûr qu'il était condamné par la justice, comme vous semblez le dire, Thibault. Mais je ne m'attendais pas à cela pour tout dire. Je ne peux pas vérifier ce que vous dites. Et ça m'ennuierait si ce n'était pas exact.
Très bien. Bon, alors je laisserai les gens vérifier.
Je vérifierai le plus rapidement possible, en tout cas, ce que vous venez de dire.
Il y a quand même depuis plusieurs dizaines d'années un peuple français finalement qui est en partie là et silencieux. Donc Éric Zemmour aujourd'hui semble redonner un espoir à cette population. Tant mieux. Et c'est pourquoi j'ai parlé des condamnations de Joey Starr. C'est simplement que si Jean-Pierre Coff était toujours vivant, je pense qu'il nous sortirait sa phrase préférée sur la qualité de qui est Joey Starr.
Oh non, mais soyons gentils. C'était pas le sens de... Je voulais dire. Bon, en tout cas, Thibault, d'accord. Comme il est 14h23 et que c'est l'heure du débrief, je vous avais dit que c'était très, très rapide. Donc, nous allons passer avec Laurent Tessier. Je vous remercie grandement. À tout de suite avec Laurent.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Faut-il lever le secret de la confession ? Le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Ric de Moulin-Beaufort, a créé la polémique sur Info.
La confession doit rester secrète, le secret de la confession restera parce que ça ouvre un espace de parole libre. La confession s'impose à nous, et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Parce qu'il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu.
Nicolas est prêtre dans la Somme, ses réactions au Standard ce midi.
Une victime qui vient se confesser, moi comme confesseur, je l'invite à aller porter plainte, à faire savoir les choses.
Et là aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est le retour de...
La blague du jour d'Olivier Guérec.
On s'est régalé avec les messages du jour sur la page Facebook de l'émission. En bon journaliste, monsieur Boubouk a vérifié les propos, ou pas.
Et on conclut avec Marie-Sophie, se confesser c'est sacré, si on le remet en question, plus personne ne se rendra dans l'isoloir.
C'est pas l'isoloir, si vous me permettez, je suis pas sûr que là où l'isoloir, dans le confessionnal, si vous me permettez, cher Olivier.
Est-ce que j'aurais mal retranscrit ? C'est possible. Hein ?
Non, parce que l'isoloir, c'est on vient voter dans un isoloir, mais a priori c'est plutôt un confessionnal.
J'aurais dû.
Après ça, monsieur Boubou, quand même, vous ne devez dire qu'une seule chose.
Bah pardon.
Dieu reconnaîtra les siens.
Mon Dieu.
Ah oui, mon Dieu, allez, faut avouer et à moitié pardonner.
Faut être très indulgent avec les gens en dessous de 25 ans.
C'est bien noté, maître. Sans transition avec monsieur Boubouk, le taux de chômage devrait atteindre en France d'ici la fin de l'année 7,6% selon l'INSEE, du jamais vu depuis 2008. Oui, un avis, Julien Courbet ?
La bonne humeur aussi, c'est peut-être le chiffre du chômage parce qu'il baisse et c'est une bonne nouvelle, on va en parler.
Alors, il va réaugmenter parce que là, dans l'équipe, je vais faire un peu de ménage vu comment ça s'est passé, mais ça n'aura pas une grosse incidence sur le chiffre global.
Et dans le même temps, des entreprises n'arrivent pas à trouver leur main-d'œuvre, comme Audrey, gérante de 3 salons de coiffure à Boulogne-Billancourt.
C'est catastrophique, impossible de trouver, d'avoir des candidats. Alors moi, je recrute des collaborateurs, des coiffeurs polyvalents et en CDI, en temps complet. Depuis plus d'un mois, d'ailleurs, on a des annonces de manière constante, toute l'année. Ma personne qui se présente là depuis post-Covid, c'est encore pire qu'avant.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qu'écoute Monsieur Boubouk dans l'isoloir quand il se confesse tout seul.
Petit meurtre entre mamies.
Oui, exactement.
C'est le programme.
Il n'y a pas d'âge pour tuer.
Bah certes, mais bon, la
Clara, 84 oui. ans, accusée d'avoir tué sa meilleure amie, son amie de 60 ans, Suzanne, 93 ans. Oui. Ah, il faut le faire, hein, y a du métier quand même.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas drôle surtout.
Non, pas drôle du tout, mais surtout pour Suzanne, qui a passé l'arme à gauche.
14h26, dans une seconde, Jean-Alphonse Richard, rendez-vous demain.
A tout de suite.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.